Christophe Alves, bonjour. J'ai le plaisir de vous rencontrer à l'occasion de la sortie aux éditions Casterman des nouvelles aventures de Guy Lefranc, donc la route de Los Angeles. Guy Lefranc, en fait, il est à Paris en 52, si j'ai bien lu, dans le journal Tintin, avec un premier album en 54 sous la plume de Jacques Martin. Et vous êtes intervenu dans 34 aventures dans les 4 dernières.
5 dernières,
ouais. Oui, avec celle-ci. Comment fait-on pour rentrer dans les chaussures d'autres auteurs et de retrouver la patte de Guy Lefranc?
C'était un travail à l'arrière qui m'a été, je pense, un peu plus simple que ce que je pouvais imaginer. Dans le sens, je suis venu à la bande dessinée parce que j'adore Tintin, Hergé. Et étant tout petit, je me suis dit, c'est ça que je veux faire plus tard. Et donc, j'ai toujours été fasciné par Hergé, Jacobs, Martin par la suite. Donc, c'est vraiment un univers, le côté franco-belge, Linklater, qui vraiment me va vraiment très très bien. Et je pense qu'inconsciemment, j'avais déjà incorporé pas mal de codes de cet univers. Et pour reprendre justement le trait de Jacques Martin, j'ai surtout analysé, je dirais vraiment avec des agrandissements de ses planches, de voir comment le trait était fait, était manié justement, avec les pleins et les déliés. Donc j'ai fait une sorte de petite adaptation pour que ça rentre un peu plus, je dirais, dans le style Martin par rapport à ce que je faisais déjà naturellement.
Est-ce que sur 70 ans, même si il est toujours aussi beau gosse, il est toujours aussi blond, toujours aussi casse-cou, il a évolué quand même, le Guy. Est-ce que chaque auteur amène un petit peu sa patte, ou est-ce qu'il évolue en fonction de la civilisation et la société qui bouge?
Là, il a évolué aussi parce qu'à un moment donné, c'est vrai que il a été décidé que les aventures seraient figées, je dirais, dans les 50-60, voilà, maximum 60. Et donc là, il a fallu retrouver quelque part l'esprit de l'époque. Parce que c'est vrai que je pense que Guy Lefranc actuellement serait complètement anachronique de par son caractère, ce côté pur. Justement, sans défaut. Donc je pense que les années 50, lui vont bien. Et donc c'est vrai qu'après, chaque auteur, chaque scénariste, chaque dessinateur apporte sa patte, évidemment, personnelle. Et il fait évoluer, alors, en restant toujours, je dirais, dans les canons, quelque part créés par Jacques Martin.
Est-ce qu'il y a quand même des thèmes nouveaux ou des sujets peut-être un peu plus sensibles en fonction des époques, qu'on peut faire, des messages qu'on peut faire passer plus qu'on ne l'aurait fait fatalement dans les années 50 quand on a créé le personnage?
Oui, immanquablement, parce que c'est vrai qu'il faut que se dire aussi que le lectorat a évolué, souvent a vieilli aussi, a suivi les aventures depuis le début. Donc à ce niveau-là, il faut coller aussi à ce que les gens comprennent du monde actuel, quitte à le transposer. C'est vrai, par des fois des artifices, mais transposé dans les années 50. Il faut que ça parle évidemment aux gens de notre époque.
Alors parlons maintenant de votre collaboration avec François Corteggiani, qui est décédé le 21 septembre en 22, donc l'année dernière, le jour de ses 69 ans. Comment ça se passait au niveau de la conception? Qui avait l'idée? Est-ce que vous en discutiez au préalable avant de vous lancer?
Oui, c'est toujours lui qui donnait, souvent il me donnait deux ou trois pistes, en disant, bah tiens, j'ai pensé à telle histoire, tel genre d'histoire, alors des fois en deux, trois lignes, hein, simplement. Et c'est vrai que souvent, il m'orientait en disant, bah tiens, je pense que cette histoire pourrait être intéressante. Et il avait souvent raison, je veux dire, c'est vrai que... Donc, on discutait du scénario, donc il m'exposait un peu les grandes lignes. Des fois, j'apportais quelques idées, alors qu'il prenait ou pas, mais en me disant, oui, ça, c'est un sujet qui me passionne bien. Et on était vraiment d'accord aussi pour quelque part que chaque album soit très différent du précédent.
Ah oui.
Quand on regarde entre Mission Antarctique, le principe d'Heisenberg, les juges intègres, à chaque fois, c'est vraiment des sujets très différents, voire des lieux très différents. Donc, parce qu'on avait toujours envie de surprendre le lecteur et de ne pas ronronner, on va dire, avec toujours les mêmes artifices, les mêmes lieux, même sorte d'intrigue. Et donc, et surtout pour se faire plaisir, c'est-à-dire que moi j'aime bien en tant qu'auteur, quand je passe plus d'un an sur un album, de changer d'univers, de passer les glaces de l'Antarctique, justement au plateau de l'Aubrac. Donc ça, c'est stimulant. J'ai besoin de ce changement, quoi. Il n'y a pas de routine.
François est parti avant que l'ouvrage ne sorte. Donc finalement, ça s'est terminé, comme vous dites, un peu dans la souffrance, non, quand même, de ce
son c'était très, départ. Très compliqué. Ça a été très compliqué parce que c'est vrai que j'ai eu au téléphone le jour de son anniversaire et il est décédé quelques heures après. Quoi. Donc pendant plusieurs semaines, je n'ai pas réussi vraiment à dessiner parce que comme il faisait en plus un découpage dessiné, comment est-ce qu'on appelait
un storyboard,
une sorte de storyboard, et donc je suis passé devant les storyboards sur ma planche à dessin et évidemment j'étais à chaque fois ému. C'était compliqué, donc il a fallu du temps pour que je me remette vraiment sur les planches pour finir le travail.
Et un bel hommage à la fin, tant par le texte et en même temps les photos et puis votre dessin final fatalement aussi. Comment ça se passe? Parce que finalement, c'est vrai que son storyboard était assez pointu, mais en même temps, après, vous aviez tout le reste à recréer quand même.
C'est ce que j'ai adoré faire avec lui, c'est que au tout début, vraiment sur le premier album, Mission Antarctique, quand je voyais son storyboard dessiné, j'étais inquiet.
Qu'est-ce que je vais encore faire?
Voilà, exactement. Puis dans le sens, je me suis dit, je vais être complètement bridé, donc je vais pas pouvoir vraiment m'éclater entre guillemets au niveau des planches, parce que j'aime bien les concevoir. Jusqu'à maintenant, j'avais travaillé avec des scénaristes qui me faisaient un découpage classique, c'est-à-dire simplement écrit, et comme ça moi je concevais les images dans ma tête, et après je me suis rendu compte que la plupart du temps ça fonctionnait évidemment super bien, donc il n'y avait pas à changer, et les rares fois où je trouvais qu'il fallait changer un angle de vue ou rajouter une case donc là je lui en avais parlé en mettant les formes et tout et il m'avait dit non il n'y a aucun souci, c'est vraiment moi c'est ma vision de la page, de l'histoire, si toi tu vois mieux pour l'histoire, vas-y. Donc c'était très simple. Donc quand je faisais des modifications, je l'appelais même pas, je lui donnais le crayonné fini avec des fois quelques modifications par rapport à ce qu'il avait prévu, et j'ai jamais eu de remarque de retour en disant il faut que tu refasses comme j'avais indiqué. Par contre, je changeais pas une virgule de son texte.
Une belle collaboration.
Voilà, c'est ça. C'était devenu vraiment un ami, quoi.
Alors, indépendamment de Guy Lefranc et les personnages principaux, c'est une certaine Margaret Morrison, M.M., qui, bien entendu, on va pas le citer, c'est Marilyn Monroe qui est derrière,
évidemment.
Et sa doublure est Estelle Roma. Point de départ, finalement, de cette histoire, c'est le tournage à la Fox de Something the Gods to Give, qui va démarrer dans la réalité le 23 avril 1962, arrêtée, elle a été virée, et puis finalement, elle revient sur le plateau pour finalement un tournage arrêté suite à son décès le 4 août 1962. Avec une belle scène de piscine. C'est vous qui l'avez suggéré ou c'est François qui a dit
non, là. Et c'est François, quand vous regardez, ce sont des images du tournage. Donc on a repris exactement les mêmes poses avec c'était des photos il y avait des photos couleurs et photos blanches du tournage, donc on s'est dit tiens, on va faire le clin d'œil avec justement Marilyn.
Ce qui est agréable dans l'ouvrage, c'est cette sensation de pouvoir le lire à différents niveaux de lecture, avec justement comme on vient de citer toutes ces références Marilyn, il y a aussi Frank Sinatra, les Kennedy qui s'appellent ici les Donnelly. Il y a également le mari grand auteur Arthur Miller, et c'est assez fascinant, c'est que vous tronquez la réalité, mais en même temps tout en vous inspirant. Et c'est qui lance ce quiz finalement au lecteur?
C'est surtout François, je veux dire, qui adore, qui adorait. Je parle encore au présent, c'est vrai que ça fait drôle. Il adorait justement toujours de prendre des choses réelles, concrètes ou historiques, et de les dénaturer entre guillemets, ou alors de broder autour, quitte à mélanger sans arrêt le vrai du faux.
Ah ouais, ça on n'arrête pas là.
Voilà, pour noyer le poisson.
Mais c'est amusant d'un autre côté pour le lecteur, c'est qu'il a envie d'aller. C'est comme, je vous avoue, j'ai été pour la première fois dans les studios de la Fox en 80, et je me suis dit mais non, c'est pas la même entrée, il s'est planté. J'ai été voir des photos d'archives de 60. C'est bien la bonne entrée. Tout avait été transformé entre temps. Donc, vous allez de temps en temps sur les sites. Je suppose que ici, il n'y avait pas besoin. Il y avait suffisamment de matière avec Internet, quand même.
Oui, voilà, Internet est vraiment une source géniale.
Surtout pour un sujet comme celui-ci.
Voilà, exactement. Parce que c'est vrai que quand on regarde Los Angeles, qui a tout le temps été modifié, reconstruit. Donc, à ce niveau-là, il fallait vraiment trouver des choses de l'époque. Donc, c'est souvent, alors, soit des documents, des photos d'époque, soit des films. On peut retrouver des fois des, simplement un détail. Des fois, on peut regarder tout un film pour simplement une entrée, comme vous dites.
De studio.
De studio. Et là, c'est vrai que sur les studios, j'avais recherché pas mal de choses parce que j'avais eu, je me suis dit, c'est trop moderne par rapport à l'époque. Donc, ça va pas. Et donc, il y a des moments où on passe vraiment beaucoup de temps pour simplement une case, comme on dit, l'entrée de la box.
Non, mais je vous avoue, je me suis fait avoir, là.
Donc, ça va. Donc, on a bien fait le travail.
Alors, la route de Los Angeles, je me suis rendu compte que c'était un livre de John Fante qu'il avait écrit en 1933, qui est sorti beaucoup plus tard, avec un personnage qu'il avait créé, qui est Arturo Bandini. Et vous, bien entendu, là aussi, tour de manivelle, c'est lui qui écrit finalement cet ouvrage en question.
Oui, il est le personnage principal, voilà, c'est ça.
C'est fou. Ouais. De nouveau, encore une fois, c'est passionnant d'aller chercher la réalité par rapport à votre création. Comme le titre existait déjà, vous n'avez pas eu de soucis pour le reprendre. Il n'y a pas de droit des noms déposés ou quoi que ce soit.
Là, vous me posez une colle. C'est vrai que non, ça, on ne s'est pas posé la question. C'est vrai que j'aurais pu poser la question à François. C'est un peu tard. Non, au niveau des titres, je ne sais pas s'il y a vraiment des choses très, comment dire, très carrées ou si c'est plutôt...
Parce que c'est vrai qu'encore une fois, et comme vous, en plus de ça, vous allez carrément en faire référence dans votre bouquin, c'est assez...
Mais par contre, on n'utilise pas, je dirais, les personnages...
Non, Bandini... Voilà.
Donc c'est une sorte encore d'hommage, clin d'œil par rapport au roman, parce que c'est un roman que François avait vraiment apprécié. Donc c'est pour ça qu'il avait eu après cette idée... utiliser le titre.
Alors, vous vivez à Guerchizy, c'est à 10 km de Nevers où vous êtes né, donc en 65. Finalement, vous voyagez par personne interposée, quand même, non ?
Exactement, ouais. C'est pour ça que j'adore la bande dessinée. On peut partir à l'autre bout du monde sans bouger, même si j'aime bien voyager aussi, mais c'est vrai que j'ai peu le temps de le faire parce que c'est vrai que le travail de dessinateur de BD m'accapare vraiment. Pas mes loisirs justement, mais toutes mes journées. Donc il faut après arriver à se poser un peu en disant je prends une semaine et je pars. Je suis déjà parti au Québec. Maintenant j'ai ma fille qui est à Tokyo. Donc
voilà. Donc on va avoir des futures aventures. Comment ça va se passer si je ne suis pas trop indiscret
pour la suite.
Voilà, ouais.
Donc là j'ai proposé une histoire justement à Casterman. Parce que c'est vrai que je me voyais... J'étais pas prêt de travailler avec un autre scénariste. Et c'est pas forcément sur le côté d'une trahison par rapport à la mémoire de François, mais en me disant, je pense que j'aurais immanquablement comparé, en me disant, avec François, j'aurais fait comme ci, comme ça. Et trouver une telle osmose, j'avais peur de... évidemment, de ne pas la retrouver, et je ne l'aurais pas retrouvé non plus. Donc, comme j'avais une idée... une vague idée de l'histoire de Lefranc déjà depuis un petit moment. Donc je me suis dit, c'est peut-être le moment.
L'occasion.
Donc j'ai proposé, donc ça leur a bien plu au niveau du comité Martin, avec justement le fils, la fille Martin.
De Jacques.
Et Simon Casterman, voilà, je recherchais Simon Casterman et Jimmy Rodenot. Donc on en a parlé là il y a quelques instants.
Ah ouais.
On a parlé du scénario, donc il y a des choses à retravailler.
Et donc, c'est quoi ? C'est 12 mois pour un projet, pour qu'il aboutisse
Au niveau scénario, j'espère pas.
Non, pour vous, oui, au mieux.
Enfin, pour le scénario, donc là, on va voir le temps, on prendra le temps. Ce sera nécessaire aussi pour faire un bon scénario, que tout le monde en soit vraiment content par rapport à ça. Mais sinon, pour la réalisation au niveau dessin, il me faut une grosse année, je dirais, pour faire un album, parce que c'est vrai que ça demandait énormément de recherche de documentation, l'entrée de la Fox, quelques heures des fois pour simplement une case
à remplir.
Donc, non, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de temps, surtout au niveau dessin, donc c'est vrai que ça occupe beaucoup.
Alors, une dernière question. Quatrième de couverture, Venise. Expliquez-nous un petit peu, parce qu'elle est toujours reprise, mais...
Ouais, je pense que là, c'est simplement de garder depuis tous les albums, cette colonne, justement, ce piqué.
Vous y tenez, vous accrochez. Ouais,
là, c'est... Comment dire ?
Automatique,
c'est
vraiment, quoi.
Là, c'est Casterman qui a gardé cette... c'est pas une typo, mais ce symbole qu'on a derrière chaque album de Lefranc.
Christophe, un grand merci. Donc, on rappelle La Route de Los Angeles qui est sortie, vient de sortir aux éditions Castelnau. Merci.
Merci beaucoup.